Voici les deux textes liturgiques pour ce septième dimanche après la Pentecôte. L'épître est tirée de saint Paul aux Romains, chapitre 6. Mes frères, je vais parler selon l'homme, puisque vous êtes si charnels et si faibles encore. De même que vous avez fait servir vos membres à l'impureté, à l'injustice pour vivre dans l'iniquité, faites maintenant servir ces mêmes membres à la justice pour votre sanctification. Car vous avez secoué le joug de la justice quand vous étiez sous l'esclavage du péché. Et quel fruit avez-vous recueilli de ces actes dont vous rougissez aujourd'hui, puisque le terme auquel ils conduisent, c'est la mort. Maintenant, au contraire, que vous êtes affranchis du péché à servir à Dieu, vous avez pour fruit la sanctification et pour terme suprême la vie éternelle. Car si la dette du péché est la mort, le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle dans le Christ Jésus, notre Seigneur. On se lève pour l'Évangile, suite du Saint-Évangile selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus dit à ses disciples, « Gardez-vous des faux prophètes qui viennent à vous sous un extérieur de brebis et qui au-dedans sont des loups ravisseurs. C'est à leurs fruits que vous les distinguerez. Cueille-t-on des raisins sur les épines ou des figues sur les ronces ? Non. Tout bon arbre porte de bons fruits et tout mauvais arbre porte de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut pas porter de mauvais fruits, non plus qu'un mauvais arbre porter de bons fruits. Et tout arbre qui ne donne pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. C'est donc à leurs fruits que vous les distinguerez, car ce n'est pas tout homme qui me dit « Seigneur, Seigneur » qui entrera dans le royaume des cieux, mais celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux, qui entrera dans le royaume des cieux. Veuillez vous asseoir. Donc, quelques petites annonces. Donc, ce mercredi, cours des actes du magistère ici à 19h, qui sera placé sur Internet. Donc, j'ai commencé maintenant l'étude des textes, des grands textes de Saint Pie X sur le modernisme, avec comme introduction le serment antimoderniste que tous les prêtres doivent prêter avant d'être ordonnés prêtres. Je vous rappelle que dimanche prochain, nous aurons le repas de paroisse, donc le 23. Et au mois d'août, ce sera pour le 15 août, pour la grande fête de la Sainte Vierge. Les travaux à la chapelle ont bien avancé, avec la grâce du bon Dieu. Donc ils ont maintenant posé les ourdis, je crois que ça s'appelle les ourdis, c'est-à-dire le soutien de la dalle. Ensuite, on mettra la dalle. Il y a 28 jours, je crois, de séchage, puis une deuxième petite dalle, puis le carrelage. Bon, on n'est pas encore demain dans la chapelle, hein, mais ça arrive. Courage. Je recommande aussi à vos prières notre petite chapelle d'Andorre, donc j'y vais une fois par mois, qui se développe de façon assez extraordinaire. Je suis très content. Donc, hier, nous avons une deuxième non-catholique qui est venue. Il y a deux orthodoxes qui viennent maintenant à la messe. La première vient à la messe depuis déjà plusieurs mois, tous les dimanches, j'aurai jamais une messe. Tous les dimanches, hein, chaque fois que je vais là-bas. Et donc, une deuxième est arrivée hier, de plus en plus de jeunes. Toujours la même tranche d'âge, c'est très spécial. Toujours la tranche d'âge 30-35 ans. Et c'est très important parce que c'est tout le futur de l'Église hein, qui se prépare. Alors priez bien pour ces gens-là, pour qu'ils puissent persévérer. Beaucoup viennent de milieux non catholiques, certains sont baptisés mais n'ont jamais pratiqué la foi. Donc priez pour eux. Je commence aussi à vos prières maman qui est à l'hôpital. Bon, il n'y a rien de très grave, mais elle a fait une forte anémie. En globules rouges, son taux d'hémoglobine était tombé tellement bas que le médecin a demandé à ce qu'elle passe à l'hôpital pour avoir une transfusion sanguine. Bon, alors, prier, c'est pas très grave, mais enfin, à 93 ans, quand même, prier un peu pour elle. Voilà. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes bien chers frères, mes bien chers amis, il y a dans ce texte, les textes liturgiques d'aujourd'hui, beaucoup, beaucoup de très bons conseils de notre Seigneur Jésus-Christ. En fait, il nous parle de la foi, d'espérance, de la charité de façon indirecte et nous explique les dangers qui vont s'exercer contre la charité. On peut expliquer ça avec une image toute simple. Imagine un calvaire. Un gros calvaire construit avec du fort granit de Bretagne. Donc on commence par mettre un gros bloc sur le sol qui a été aplani. On met un gros bloc qui représente la foi. Alors le granit, c'est solide, ça soutient les vagues, ça soutient les vents, ça bouge pas. Ça, c'est la foi. Au-dessus de ce premier bloc, on met un deuxième bloc, un peu plus petit, peut-être en taille, parce que pour faire quelque chose de joli, avec une espèce de petite marche, on met un deuxième bloc, qui fait aussi plusieurs tonnes, qui représente l'espérance. L'espérance est aussi taillée dans le granit, c'est solide. Puis au-dessus, on met la croix. La croix, c'est la charité. Mais attention, la croix, elle est en bois. Alors si le granit, c'est solide, le bois, c'est beaucoup moins solide. Donc la croix qu'on place au sommet de la foi et de l'espérance, la croix qu'on met au sommet de l'espérance et de la foi est beaucoup plus fragile que la foi et l'espérance elle-même. Il est facile pour les ennemis de venir avec une disqueuse, une scie, et hop, on coupe la croix. La croix peut être aussi être attaquée par les éléments, peut être attaquée par les animaux qui vont dévorer le bois, attaquée par un ouragan qui va même casser la croix. Le granit ne bougera pas, la croix, elle, peut bouger. Et il faut bien comprendre ces choses-là, mes bien chers frères. Même si la croix n'est plus là, même si la charité a disparu, la foi et l'espérance sont toujours là. La foi et l'espérance demeurent. La foi et l'espérance vont demeurer même si la charité a disparu dans mon cœur. Rappelez-vous ce qu'est la charité. La charité, c'est l'habitation en moi de la Sainte Trinité, c'est la définition traditionnelle. C'est la vertu par laquelle j'aime le bon Dieu de tout mon cœur, de toute mon âme et par-dessus toute chose. Et mon prochain comme moi-même pour l'amour de vous, pour l'amour de Dieu. Donc la charité, si vous voulez, ne peut pas exister sans la foi et l'espérance. Par contre, la foi et l'espérance peuvent exister sans la charité. Alors lorsque la charité, lorsque la croix est au sommet des deux blocs de granit, la foi et l'espérance sont ce qu'on appelle une foi et une espérance formées. Formées, c'est-à-dire qu'elles ont une vie. C'est une foi vivante, une espérance vivante. Mais si la croix est décapitée par l'ouragan, par le démon, par le péché, la foi et l'espérance demeurent, mais c'est ce qu'on appelle une foi informe. Une espérance informe. C'est vraiment toujours là. Faut bien comprendre ça. La foi et l'espérance peuvent exister sans la charité. Par contre, l'inverse n'est pas vrai. La charité ne peut pas exister sans. La charité ne peut pas exister sans la foi et l'espérance. Donc, est-ce qu'on peut avoir la charité? Je parle de la charité théologale, donc l'amour du bon Dieu. La charité, c'est quoi? Je vous ai déjà expliqué, la charité, c'est l'application, tout simplement, de la loi du bon Dieu. La charité, c'est donc l'obéissance à la loi du bon Dieu. Est-ce qu'on peut avoir la charité, avec cette définition, sans avoir la vraie foi et la vraie espérance? Impossible. Dans son catéchisme traditionnel, Saint Pie explique ce qu'on peut avoir avec la véritable Église. Il parle de la vraie foi. Sous-entendu, peut exister une fausse foi. Donc, est-ce qu'avec une fausse église, par exemple, est-ce qu'on peut avoir la charité avec une fausse église? C'est impossible. Pourquoi? Parce qu'avec une fausse église, il ne peut pas y avoir la véritable foi, la véritable espérance. Donc, il faut la véritable foi, la véritable espérance. La foi, parce que nous croyons fermement toutes les vérités qui nous ont été révélées par Dieu, qui étant Dieu, ne peut ni se tromper ni nous tromper. Il faut l'espérance. J'espère avec une ferme confiance, donnerai par les mérites de notre Seigneur Jésus-Christ votre grâce en ce monde. Si j'observe vos commandements, le bonheur éternel dans l'autre, parce que vous l'avez promis, vous êtes fidèles dans vos promesses. Et attention, même si j'ai la foi et l'espérance, la charité n'est pas forcément là. Il faut rajouter la vertu de charité, l'amour du bon Dieu, pour pouvoir avoir une foi vivante et une espérance vivante. Et si j'ai une foi informe, si j'ai une espérance informe, parce que la charité n'est plus là, le granit sera toujours là, mais il va commencer un petit peu à se décomposer. D'où l'importance pour nous, mes bien chers frères, de garder en nous la vertu de charité, c'est-à-dire l'état de grâce. Peut-il y avoir l'état de grâce sans la vraie foi, la vraie espérance? Impossible. Peut-on avoir l'état de grâce dans une fausse religion? Impossible, pourquoi? Parce qu'on ne peut pas avoir la charité, la véritable charité, sans la foi et l'espérance. On ne peut pas avoir la véritable foi, la véritable espérance dans une fausse religion. Donc on ne peut pas avoir la vraie charité dans une fausse religion. C'est impossible. Et c'est pour ça qu'il y a tout un travail de missionnaire qui doit être fait par l'Église et par chacun d'entre nous, moi en tant que prêtre et vous en tant que laïc, pour justement amener ces gens qui ne sont pas forcément catholiques à trouver la véritable charité, qu'ils ne pourront pas trouver sans la véritable foi et la véritable espérance. Et c'est ce que je suis obligé d'expliquer même à des gens qui sont catholiques, mais qui sont dans une situation telle qu'ils ne peuvent pas encore s'approcher des sacrements parce qu'ils n'ont pas encore la charité. N'oubliez pas que la porte qui ouvre la porte des sacrements, c'est la porte de la charité. La porte de charité, c'est quoi? La porte de la charité, c'est l'application de la loi du bon Dieu, vivre en état de grâce. Et c'est la phrase qui termine l'évangile d'aujourd'hui. Ce n'est pas celui qui crie Seigneur, Seigneur, qui entrera dans le royaume des cieux. Mais celui qui écoute la parole du bon Dieu, qui la met en pratique. Que signifie la première partie? Ce n'est pas celui qui dit Seigneur, Seigneur. Ça, c'est le symbole de la foi. La foi qui nous rappelle, justement, que notre Seigneur Jésus-Christ est Dieu. Et dans Dieu, il est notre rédempteur, il est notre créateur. Et nous allons donc donner une loi et qu'il faut commencer par connaître la loi du bon Dieu. Mais ce n'est pas la connaissance de la loi du bon Dieu qui nous amène au ciel, hein? Vous pouvez connaître la loi du bon Dieu surtout dans tous les sens, connaître la loi des 10 commandements et les fruits du Saint-Esprit et les 7 commandements et avoir connaître tous les détails sur les 7 sacrements, c'est pas ça qui vous amène au ciel. Ça, c'est la foi. Certes, cette foi est nécessaire pour pouvoir monter plus haut. Mais notre Seigneur le dit bien dans son évangile, ce n'est pas celui qui dit Seigneur, Seigneur qui entrera dans le royaume des cieux, donc la foi suffit pas. Et Saint Paul insiste lourdement dans son épître aux Corinthiens. Si je n'ai pas la charité, je suis comme une cymbale qui retentit. Si je n'ai pas la charité, même si je donne ma vie et mon corps pour être brûlé pour les autres et nourrir tous les pauvres de la planète, si je n'ai pas la charité, je ne suis rien parce qu'il manque l'essentiel. J'ai une foi, mais elle est morte. Une foi informe. Donc, ce n'est pas celui qui dit Seigneur, Seigneur qui entrera dans ce royaume des cieux, mais celui qui écoute la parole du bon Dieu. Ça, c'est le symbole de l'espérance. Parce que pour écouter la parole du bon Dieu, il faut dresser la tête, il faut dresser l'oreille et commencer à se taire pour entendre notre Seigneur Jésus-Christ qui parle. C'est donc le symbole de la vertu d'espérance. Donc, il faut d'abord la foi. Seigneur, Seigneur, rappelez-vous ce qu'a dit notre Seigneur Jésus-Christ. Si je ne frappe pas à la porte, si je ne demande pas, si je ne cherche pas, on ne trouve rien. Il faut frapper. Seigneur, Seigneur, ouvrez-nous, mais ça ne suffit pas. Il faut aussi tendre l'oreille vers le bon Dieu pour écouter la parole du bon Dieu qui s'adresse à nous. Il faut l'espérance. Donc ce n'est pas celui qui dit Seigneur, Seigneur qui entrera dans le royaume des cieux, mais celui qui écoute la parole du bon Dieu et la met en pratique. Ben voilà la charité. Et il y a quoi à mettre en pratique la parole du bon Dieu? Ben, ça veut dire remplir ses obligations par rapport à Dieu. Quelles sont les obligations par rapport à Dieu? Les obligations par rapport à Dieu, ce sont les obligations des 10 commandements de Dieu. Donc même si j'ai la foi à déplacer les montagnes, si j'ai l'espérance à déplacer les montagnes, mais j'ai pas la charité parce que je ne suis pas la loi des commandements de bon Dieu, ma foi est morte, informe ou moribonde. Mon espérance est informe, moribonde, parce qu'il manque l'essentiel. C'est pour ça qu'on dit que l'âme vivifie le corps comme la charité vivifie la foi et l'espérance. Et donc, ça ne suffit pas de chercher le bon Dieu. Et je suis obligé, c'est très intéressant parce qu'il faut le faire. Dans tout ce groupe de jeunes, on a maintenant une bonne quinzaine de personnes qui viennent à la messe à Andorre, dans une maison privée. Eh bien, beaucoup ne sont pas catholiques. Ou beaucoup ne pratiquent pas leur foi catholique, mais ils continuent de venir. Je leur explique, attention, la foi ne suffit pas. Il faut maintenant passer, il faut demander, écouter, ouvrir l'oreille pour entendre le bon Dieu qui parle, pour passer à la vertu de charité. La vertu de charité, c'est quoi? C'est l'application des 10 commandements du bon Dieu. Et ça, le monde moderne a mal fait comprendre ces choses-là. Ah, ce monsieur, monsieur l'abbé, il est gentil tout plein, il est tout gentil, il nourrit tous les pauvres de la ville. Oui. Mais il a emprunté la femme de son voisin, puis il a oublié de lui rendre. Un petit problème technique. Ah, mais il aime le bon Dieu. Non, il n'aime pas le bon Dieu. Parce que s'il aimait le bon Dieu, il n'aurait pas emprunté la femme du voisin, alors que le bon Dieu l'a interdit assez clairement les commandements du bon Dieu. Oui, donc encore une fois, rappelons-nous cette phrase. Ce n'est pas celui qui dit Seigneur, Seigneur qui entrera dans le royaume des cieux, celui qui écoute la parole du bon Dieu et qui la met en pratique. Foi, espérance, charité. L'équation foi plus espérance égale charité. S'il n'y a pas la charité, il manque quelque chose. Et notre Seigneur Jésus-Christ va plus loin dans ses explications. Il va parler des faux prophètes. Encore une fois, je vous ai expliqué, si la foi et l'espérance sont construites dans le granit très fort, qui va pas bouger. La croix est fragile. Puis vous avez la croix est divine. La croix est divine, mais la croix est fragile. On perd pas la foi en 5 minutes. Même au marteau-piqueur, sur un bloc de 10 tonnes de granit, le marteau-piqueur va faire grand-chose. Par contre, la croix est en bois. Le bois, c'est fragile. Et on ne peut pas détruire la foi en 5 minutes, on ne peut pas détruire l'espérance en 5 minutes, on peut détruire la charité en 30 secondes. Il fait. Il suffit de faire rentrer un faux Dieu dans l'âme. Et comme notre Seigneur Jésus-Christ est un Dieu jaloux, évidemment, dès qu'un faux Dieu rentre dans l'âme, il s'en va tout de suite en courant. La croix disparaît. Alors on a un beau piédestal avec une grosse pierre de foi, une grosse pierre d'espérance, et puis il y a un trou au milieu, il manque l'essentiel. Il manque notre Seigneur Jésus-Christ. Et ces faux prophètes dont parle notre Seigneur Jésus-Christ, quels sont ces faux prophètes? Ces faux prophètes sont justement ceux qui essaient de nous faire croire qu'on peut aller au ciel sans la charité. Que la foi et l'espérance sont suffisants. À partir du moment où j'ai la foi, je crois que notre Seigneur Jésus-Christ est Dieu, j'espère en notre Seigneur Jésus-Christ, je vis un tel péché mortel, c'est pas grave, le bon Dieu est bon, il est mort pour moi sur la croix, alléluia, c'est protestant. Il y a toute une série d'ennemis de l'Église que l'Évangile d'aujourd'hui appelle les faux prophètes. Les faux prophètes, c'est ça. Le faux prophète, c'est celui qui nous fait croire qu'on peut aller au ciel sans le bon Dieu. Mensonge de mensonge. On n'a jamais oublié ça. Alors après, il y a toutes les tendances. Les protestants, les modernistes, les libéraux qui vont dire que toutes les religions sont les mêmes. On peut mettre le vrai et le faux, et le vrai et le faux sur la même ligne d'égalité. Il faut donner les mêmes droits au vrai, et au faux. Mais il y a aussi la tendance, je dirais, plus à droite, en quelque sorte, pour utiliser un terme moderne, où on tombe dans l'orgueil. On va être plus royaliste que le roi. L'exemple typique, par exemple, c'est l'hérésie finéiste. Les gens qui se croient plus malins que plus malin que tout le monde. Le catéchisme du Concile de Trente, le catéchisme de Saint Pie X, Saint Thomas d'Aquin, tous les pères de l'Église parlent d'un baptême de sang, d'un baptême de désir. Il y en a qui ne s'appelaient pas, et ces messieurs disent, ah ben non, moi j'accepte pas ça. C'est quoi en fait? C'est du protestantisme. C'est du protestantisme parce que j'en prends et j'en laisse. Et c'est en même temps une certaine forme qui amène, je crois, ce qui est certainement l'hérésie la plus dangereuse. Il n'y a pas moi qui le disais, c'était Saint François de Sales. Saint François de Sales a beaucoup lutté contre ce qu'on appelle le jansénisme. Les jansénistes, ils appelaient ça l'hérésie de glace. Parce que l'hérésie des glaces coupe avec la charité. Coupe avec l'amour du bon Dieu. Vous voyez, c'est là où il faut arriver à garder un équilibre, l'amour de la vérité, parce qu'il n'y a pas de charité sans amour de la vérité, mais en même temps, avoir cette charité extraordinaire qui amène près du bon Dieu. Il y a des tas d'exemples dans la vie de notre Seigneur Jésus-Christ. Rappelez-vous, cet exemple qu'il donne, il parle d'un propriétaire terrien qui a un arbre qui donne pas de fruits. Alors il va dire au jardinier, bon, ben, cet arbre, il donne plus de fruits, on le coupe et on le brûle. Qu'est-ce que dit le jardinier? Seigneur, attendons. Je vais bêcher autour du pied de l'arbre, je vais mettre du fumier, je vais bien l'arroser. Peut-être qu'il va donner du fruit. Puis si l'année prochaine, on voit qu'il n'y a toujours pas de fruit, alors à ce moment-là, oui, on le coupera. Ça, c'est exactement l'histoire de la charité. Il y a d'autres exigences, il ne faut pas oublier. Notre Seigneur Jésus-Christ, une fois, se promène avec ses disciples. Il s'arrête sous un figuier. Et l'évangile précise, on n'est pas autant des figues. On n'est pas autant des figues, donc il ne devait pas y avoir de figues sur ce figuier. Effectivement, il n'y avait pas de figues sur le figuier. Notre Seigneur Jésus-Christ cherche des figues, il n'en trouve pas parce que ce n'est pas le temps des figues. Et qu'est-ce qu'il fait? Il maudit le figuier. Et lorsque les disciples sont repassés près de ce figuier, quelque temps après, ils sont aperçus que le figuier avait complètement desséché. Et pourquoi est-ce que notre Seigneur Jésus-Christ a-t-il maudit le figuier alors que ce n'était pas le temps des figues? Mais c'est l'autre avertissement que nous donne notre Seigneur Jésus-Christ dans l'évangile du jour. Les bons fruits. Notre arbre, c'est notre âme. Et notre âme, qui est symbolisée par l'arbre, les pères de l'Église expliquent, cet arbre, notre âme est comme un arbre, c'est l'arbre de la croix. Et de même que la croix, au sommet du monticule de granit, est très fragile et peut-être décapitée par le vent, ou par les bandits, ou par le démon, de la même façon, pour nous aussi, c'est la même chose. Notre arbre est fragile. L'arbre est fragile et il faut donner des bons fruits. Et ce n'est pas nous qui choisissons les fruits. Il faut demander au bon Dieu, et ça c'est pas évident du tout, mon Dieu, quels fruits attendez-vous de moi sur mon arbre? Parce qu'on peut donner des bons fruits, mais si ce n'est pas ce que le bon Dieu attend. Imaginez un pommier qui a décidé de donner des poires. Il donne des belles poires. Elles sont belles les poires. Mais le problème, c'est qu'une poire n'a rien à faire sur un pommier. Alors, est-ce que la poire est un bon fruit? Oui. Est-ce que la poire sur un pommier est un bon fruit? Non. Parce que la poire sur le pommier n'a rien à faire. Et ça, c'est le monde moderne. C'est le catholique moderne. J'ai un arbre, mais j'ai décidé de donner des poires et plus de donner des pommes. Et mes poires sont bonnes, donc le patron serait d'accord. Le patron n'est pas d'accord du tout. Donc posons-nous la question, quel genre de fruits je donne? Est-ce que je donne les fruits que Dieu attend de moi? Ou est-ce qu'au contraire, j'ouvre la porte de mon âme pour que je puisse donner les fruits que Dieu attend et exige de moi? Et Dieu me donnera les grâces dont j'ai besoin, grâces qui sont différentes pour chacun d'entre nous, pour que je puisse donner les fruits que le bon Dieu attend de moi. Les fruits que le bon Dieu attend d'un prêtre ne sont pas les mêmes que les fruits que le bon Dieu attend d'un fidèle. Et selon les circonstances de votre vie, selon le tempérament que vous avez, selon les grâces particulières que vous avez reçues, le bon Dieu ne va pas demander les mêmes fruits à chacun d'entre nous. Il n'y a pas d'égalité devant Dieu, encore une fois, il faut se mettre ça dans la tête. L'important, c'est de donner les fruits que le bon Dieu attend de nous. Si vous avez une âme qui est la taille d'un petit verre à liqueur, qu'est-ce qu'il demande le bon Dieu? Que cette âme soit pleine de la grâce du bon Dieu, c'est tout. Si votre âme est pleine, c'est bien, il est content. Eh bon Dieu, vous ouvrez la porte du paradis. Mais si vous avez une âme qui est grande comme un verre à bière, et vous avez un petit fond de liqueur au fond de l'arbre, au fond du verre, parce que vous considérez que le voisin a un petit verre qui est tout petit, donc moi j'ai la même quantité de liquide dans mon âme, donc tout va bien se passer, ça va très mal se passer pour vous. Pourquoi? Parce que celui qui a reçu une âme de la grandeur, de la taille spirituellement parlant d'un petit verre à liqueur, si le verre à liqueur est plein, Dieu est satisfait. Mais si vous avez reçu une âme beaucoup plus grande, qui demande beaucoup plus, qui est capable de donner beaucoup plus, Dieu va exiger que vous donniez en proportion de ce qu'il vous avait donné. Personne ne peut donner ce qu'il n'a pas. Et c'est ça qui explique, mes bien chers frères, les catastrophes d'aujourd'hui. On le voit très bien, c'est une façon d'expliquer les catastrophes des années 60. Les gens sont contentés de donner le petit minimum. On a donné le petit minimum, et puis nos enfants ont tous perdu leur foi. On a donné le petit minimum, et on a arrêté de transmettre. Je vous ai expliqué ça, je ne sais pas combien de fois. On a arrêté de transmettre, et arrêtant de transmettre, évidemment, ben, les gens se sont contentés d'un petit minimum. Et donc, on avait un grand verre, le bon Dieu avait donné des grâces spéciales à certaines personnes pour avoir des grands désirs. Et puis, au lieu des grands désirs, le bon Dieu a trouvé quelques gouttes Et goutte d'eau au fond du vase. Rappelez-vous la phrase qu'il a dite à propos de Daniel, du prophète Daniel, homme de grand désir. Donc n'oubliez pas ça, mes bien chers frères. Vous avez reçu plus que les autres, hein, attention. Vous avez reçu plus que les autres, non pas par vos propres forces. De même que moi, je suis parfaitement conscient qu'en tant que prêtre, j'ai reçu plus que les autres. Et si vous savez le besoin qu'a le monde du bon Dieu, je vous donne un petit exemple tout simple. Je l'ai vraiment plusieurs fois à l'hôpital cette semaine. Et puis c'était vendredi, donc je vais à l'hôpital pour voir maman, et puis elle était en soins, donc j'ai dû attendre à la porte pendant 10 minutes. Donc l'infirmière m'a donné gentiment une chaise, elle m'a dit, mais attendez, asseyez-vous là en attendant. Je me suis assis, j'étais en soutane évidemment, puis je commence à dire mon chapelet. Bon. Puis je voyais bien que l'infirmière regardait mon chapelet avec un œil. Puis il s'approche de moi, et puis il me dit, c'est quoi le chapelet? Alors je lui explique. Il me dit, c'est intéressant, moi je suis musulman. Bon. Alors je lui dis, mais vous avez un chapelet, vous aussi les musulmans, non? Il m'a expliqué ce que c'était que le chapelet musulman. Eh bien, il m'a dit une chose après qui m'a stupéfaite. Il m'a dit, mais vous avez un frère prêtre, non? Je lui ai dit, comment savez-vous ça? C'est vrai, j'ai un frère prêtre, mais comment est-ce que vous savez que j'ai un frère prêtre? Vous avez parlé avec maman? Non, non. Et comment vous le savez? Ah, ça discute beaucoup entre infirmières. Maman avait dit à une infirmière qu'elle avait deux fils prêtres. Alors là, c'était la nouvelle du siècle dans l'hôpital. Puis pratiquement tout l'hôpital le savait. C'est là où on se rend compte que la soutane est un drapeau incroyable, absolument incroyable. Vous voyez? Et c'est ça que nous demande le bon Dieu. Ce qu'il me demande à moi en tant que prêtre, avec le port de la soutane, c'est sûr que quand il fait 40 degrés à l'extérieur, il n'a pas besoin de faire de pénitence. Hein, un prêtre en soutane, il fait sa pénitence tout seul en portant sa soutane. Bon, mais c'est ce que lui demande le prêtre. Vous, il vous demande autre chose. Donc il faut se poser cette question pendant cette messe. Quel genre de fruit le bon Dieu attend de moi? Il ne faut pas dire, ah ben j'ai décidé de donner tel fruit, tel fruit, tel fruit, tel fruit. Celui-là, je le garde pour moi. Celui-là, un peu pourri, je le donne au bon Dieu. Celui-là, bon, trop pourri, je ne peux pas le donner au bon Dieu, on le met à la poubelle. C'est Dieu qui choisit. C'est pas vous. Donc posez-vous cette question. Quel est le fruit que Dieu attend de moi aujourd'hui? Le bon Dieu ne vous demande pas des choses extraordinaires? Qu'est-ce qui est plus difficile, de faire un sourire à quelqu'un qu'on ne peut pas voir en peinture? Ou de prêcher la foi catholique pendant 2 heures. À certaines personnes, Dieu peut demander comme fruit spécial un petit acte de charité avec telle personne. Même si je ne peux pas voir cette personne en peinture. C'est facile d'être bon avec les gens qui sont bons avec vous. C'est facile d'être charitable avec les gens qui sont charitables avec nous. Mais le bon Dieu nous demande justement d'être le sel de la terre, la lumière du monde, pour prêcher l'évangile, prêcher notre Seigneur Jésus-Christ. Donc résumons tout ça. J'ai mon arbre, l'arbre de mon âme, planté sur la foi et l'espérance. La foi et l'espérance sont en granit, c'est très fort, pas de problème. Mais l'arbre est fragile. Et donc je dois surveiller cet arbre, parce que si un coup d'ouragan, une grande saute de vent, les branches peuvent se casser, l'arbre peut se casser en deux. Donc attention à bien élaguer l'arbre, attention à bien m'occuper de mon arbre pour qu'il tienne le coup dans la tempête. Et comment est-ce que je vais maintenir cet arbre en bonne santé spirituelle? En gardant l'état de grâce. Si je suis en état de grâce, je suis en communication avec la sève divine qui vient à la foi de l'espérance, et cette sève divine va monter dans les branches de l'arbre et donner à l'arbre une force extraordinaire. Et cet arbre va pouvoir donner des fleurs et des fruits. Deuxièmement, je dois méfier des faux prophètes. Gardez ce qui a toujours été enseigné par l'Église. Pas vouloir en rajouter ni d'un côté ni de l'autre. Pas tomber dans le protestantisme, pas tomber dans le libéralisme, et pas tomber non plus dans le rigorisme et dans le jansénisme. Rester tel que notre Seigneur Jésus-Christ nous demande. Donc se méfier des faux prophètes et vérifier ses fruits. Et se poser la question, quel fruit le bon Dieu attend de moi? Et le bon Dieu attend de nous des fruits différents selon les conditions de notre vie. Bon, il y a parfois des fruits qui ne sont pas faciles à porter. Et j'aimerais bien ne pas les avoir dans mon arbre, mais le bon Dieu me demande de sortir tel fruit de l'arbre. Alors, mes bien chers frères, passons par la Très Sainte Vierge Marie. N'oublions pas que c'est la Très Sainte Vierge Marie qui est là, encore une fois, celle qui nous protège notre arbre. La protection de la croix, au pied de la croix, qui notre Seigneur Jésus-Christ a-t-il placé au pied de la croix pour protéger la croix? C'est la Sainte Vierge. Et croyez-moi, si le démon vient avec une disqueuse ou une scie pour couper l'arbre, si la Sainte Vierge Marie est au pied de l'arbre, il ne va pas rester longtemps. Le démon s'en va en courant parce qu'il sait qu'il ne peut pas vaincre contre notre Sainte Vierge Marie. Donc priez votre chapelet tous les jours, confessez-vous régulièrement, battez-vous pour conserver la foi. Et avec l'aide de la Très Sainte Vierge Marie, un jour, on pourra tous se retrouver au ciel. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.